Audiolib présente Mirage de Douglas Kennedy, lu par Nathalie Hugo. Pour Christine, à nouveau. Levez les voiles, mes pauvres camarades, et que tangue chaque horizon. Vous avez connu le pire, votre volonté est en rade, vos principes flageolants, votre cœur plein de trahison. Et votre vie passée, une église effondrée. Mais que votre poison soit votre cure. Allez. Louis MacNeice, Thalassa. Chapitre 1. Première lueur du jour. Où étais-je? Dehors, le ciel, semblable à une rotonde d'un bleu naissant. Le contour des choses était encore un peu brouillé, mais en rassemblant mes esprits, j'ai fini par comprendre où je me trouvais et dans quelle partie du monde. Un éclair de lucidité? Non, plutôt quelques constats élémentaires. Que voici. J'étais dans un avion. Un avion qui, durant toute la nuit, avait survolé l'Atlantique. Un avion qui se dirigeait vers un recoin de l'Afrique du Nord, vers un pays dont la forme sur une map monde était pareille à une calotte posée sur un continent. Nous étions encore à 10 000 mètres d'altitude, d'après le petit écran incrusté dans le dossier du siège devant moi, et 842 kilomètres, ou 73 minutes, nous séparaient de notre destination. L'idée de ce voyage n'avait pas été la mienne. Elle m'avait été soufflée par l'homme dont la grande carcasse, 1,96 m tout de même, était recroquevillée dans le siège à côté du mien. Le siège du milieu, dans cet avion digne d'un film d'horreur. Pas de place pour étendre les jambes, pas de place pour bouger même un orteil, au moins 10 bébés qui n'avaient pas cessé de hurler depuis le départ, un groupe de dames d'un certain âge engagées dans un concours de ronflements, un couple qui se disputait interminablement dans un arabe chuchotant derrière nous, pas de ventilation, pas d'air conditionné, une queue de plus d'une heure pour les toilettes après un dîner à la saveur de plastique, à quoi on pouvait ajouter les multiples odeurs de sueur claustrophobique accumulées après une nuit de réclusion. Heureusement, j'avais rappelé à Paul d'emporter ses comprimés de Zopiclone. Même dans les conditions les plus adverses au sommeil, ils agissaient à merveille. J'avais donc surmonté ma répugnance habituelle à abuser des substances pharmaceutiques et j'avais fini par lui en demander un, m'offrant ainsi quelques heures de répit dans cette prison volante et malodorante. Paul, mon mari. Le mariage est encore récent, à peine 3 ans. Et si nous avons connu quelques heures, nous nous aimons vraiment, passionnément. Et nous nous réjouissons souvent de la chance que nous avons eue de nous rencontrer. De cela, je suis convaincue. Cet homme est fait pour moi. Le jour précédant l'officialisation de notre relation et l'échange de notre serment d'engagement total aux côtés l'un de l'autre, j'étais encore persuadée que je serais en mesure de changer certains traits de caractère inquiétants chez lui, que les choses iraient en s'améliorant, progresseraient, se stabiliseraient. Brusquement, il s'est mis à marmonner dans son sommeil, des chapelets de mots incompréhensibles, mais de plus en plus sonores qui trahissaient la suractivité de son inconscient. Sa voix a fini par atteindre un tel niveau de décibels qu'il a réveillé en sursaut notre voisin, un voyageur âgé qui avait gardé ses lunettes teintées et son bonnet en tricot pour dormir. J'ai passé un bras autour de mon mari afin d'essayer de le tirer délicatement de son cauchemar, et il m'a fallu m'y reprendre plusieurs fois pour que Paul émerge enfin, posant sur moi un regard égaré comme s'il ne me reconnaissait pas.
Qu'est-ce que... où ça? Je ne sais plus.
Ses yeux ont eu soudain l'expression apeurée de ceux d'un petit garçon.
« Je me suis perdue ?»«
Mais non, » l'ai-je rassuré en lui prenant la main. « Tu as fait un mauvais rêve, c'est tout. »«
Où on est ?»«
En plein vol. »«
En plein quoi ? Et où on va ?»«
Casablanca. »
Il a eu l'air stupéfait. « Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait là, Robin ?»
J'ai cherché son regard embrumé. « À toi de me le dire, chérie.